Les Jeux paralympiques de Paris s'achèvent dimanche. RFI est l'un des médias officiels de ces Jeux de Paris 2024. Vous avez pu suivre nos nombreuses émissions dédiées à un événement international hautement médiatisé. Salut, c'est Steven Jambeau de l'Atelier des médias de RFI. Ravi de vous retrouver pour une 7e saison. La formule ne change pas. L'Atelier des médias, c'est une émission de radio diffusée d'abord en podcast ou par des entretiens et parfois des reportages. On s'intéresse à tout ce qui compose l'écosystème informationnel. Et alors que ce que certains ont appelé la trêve ou la parenthèse olympique va prendre fin, j'ai souhaité que l'on discute, dans cette émission, de la médiatisation du handicap. Du handicap dans les médias. Pendant 20 minutes à la radio et peut-être un peu plus en podcast car ce format nous l'autorise, je reçois un membre du collège de l'ARCOM, l'autorité de régulation de l'audiovisuel public français. Elle préside le groupe de travail Protection des publics et diversité de la société française. Bonjour Laurence Pécori-Vollier.
Bonjour.
Bienvenue sur RFI.
Merci.
Les JO en France ont fait carton plein à la télévision. France Télévisions, diffuseur gratuit des JO dans l'Hexagone, a totalisé 50,2% de part d'audience en moyenne durant toute la quinzaine olympique. France 2, d'ailleurs, on peut le dire, c'est inédit, a été la première chaîne de France devant TF1 pendant 2 semaines. Concernant les Jeux paralympiques, les médias, là aussi, ont mis en place un dispositif d'ampleur inédite. Avez-vous déjà une idée des audiences françaises de ces Jeux paralympiques de Paris qui s'achèvent là ?
Alors non, on sait qu'effectivement le succès a été au rendez-vous, ce qui n'était pas vraiment gagné d'avance, puisque même si on savait qu'à l'occasion des Jeux Olympiques, il y a une vraie visibilité qui est donnée aussi aux Jeux Paralympiques et qu'à chaque édition, tous les 4 ans, on a retrouvé ce phénomène d'engouement pour les Jeux qui se prolongeait sur le Paralympique, on ne pouvait pas être certain que ça aurait cette envergure telle qu'on la perçoit. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir des records d'audience pour des Jeux paralympiques.
En amont de l'événement, vous aviez d'ailleurs lancé une étude d'intention de suivi qui mesurait donc la part des téléspectateurs qui pensaient regarder les Jeux olympiques. Là, 67% des téléspectateurs disaient « nous allons regarder les Jeux olympiques » et 60% des téléspectateurs disaient « nous allons regarder les Jeux paralympiques ». Donc il y avait déjà une attente.
Très belle surprise, effectivement, quand on a fait ce baromètre qui dévoilait que les personnes interrogées disaient, un, qu'elles souhaitaient regarder les Jeux paralympiques presque autant que les Jeux olympiques, que deuxièmement, elles étaient frustrées parce que habituellement, le reste du temps, il y avait très peu de parasports qui étaient retransmis, et troisièmement, que elles considéraient que c'était un sport des athlètes à part entière et que ça les intéressait autant que le reste. Mais c'était des déclarations d'intention, donc on était effectivement très agréablement surpris par ces réponses, mais on espérait qu'on n'allait pas être désagréablement déçu par la réalité. Or, on ne l'est pas.
L'ARCOM, donc l'autorité de régulation de l'audiovisuel français, a pour mission de sensibiliser les médias aux questions d'inclusivité, et pour ça, le parasport, c'est un levier très puissant.
C'est un levier très puissant parce que tout ce qui a valeur d'exemple, c'est ce qui fonctionne le plus pour avoir cette espèce de vision d'inclusivité, de cohésion sociale. Et le sport, ça marche parce que c'est des images d'athlètes, parce que c'est quelque chose que chacun pratique et parce que, plus que tout autre, le fait de voir des personnes en situation de handicap réaliser un certain nombre d'actions, parfois des records, mais parfois aussi des actions habituelles, ben ça banalise la vision du handicap et du coup, ça fonctionne vraiment par toutes les, je dirais, méthodes de sensibilisation qu'on peut avoir vis-à-vis de ce type de problématiques.
Et ce que vous avez noté aussi, c'est que le parasport, lorsqu'il est représenté dans les médias, on met en avant l'humain, les parcours de vie, plus que les performances.
Alors ça peut être un problème d'ailleurs, hein. C'est ce que nous signale un certain nombre de para-athlètes qui en ont assez d'être d'abord décrits par leur handicap et leur parcours de vie avant d'être décrits par leurs résultats. Mais effectivement, je pense que c'est peut-être une étape nécessaire. On a très peu parlé de parasport jusqu'à présent. Si vous demandiez, il y a encore 15 jours, peut-être que ça n'est plus le cas aujourd'hui, mais si vous demandiez il y a encore 15 jours à des Français rencontrés dans la rue, est-ce que vous connaissez le nom d'un para-athlète ? C'était très difficile d'en obtenir. Donc, il fallait peut-être passer par ces portraits de para-athlètes, de vie un peu particulière, qui permettait de les faire connaître, d'avoir envie de les suivre, et ensuite, dans un second temps, au moment de ces Jeux, eh ben, d'avoir une connaissance qui, finalement, rend encore plus agréable d'avoir les scores et les résultats que d'avoir les images de para-athlètes.
Et on a découvert des sports aussi pendant cet événement. Des sports que l'on ne connaît pas forcément.
Alors, c'est effectivement une deuxième particularité. C'est vrai que quand on parle de parasport, on a cette tendance à parler des para-athlètes et de leur parcours. Mais à côté de ça, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le gros avantage, c'est qu'au lieu d'être uniquement sur les 4 ou 5 sports vedettes, comme c'est le cas pour les sports valides lorsqu'on parle uniquement des résultats, eh bien, quand on parle de parasport, on a un éventail possible très, très intéressant de parasports,
de disciplines différentes,
qui sont représentées et que ça permet de mieux les faire connaître et que ça permet aussi d'avoir beaucoup plus d'athlètes qui sont représentés.
En septembre 2023, l'ARCOM avait mené une enquête flash qui montrait également la part du parasport dans les émissions sportives. Et ce qui vous avait là aussi surpris, c'est de trouver que près de 10%, un peu plus de 10% du temps des émissions sportives étaient dédiés au parasport, preuve eh bien, qu'ils sont dans les conversations.
Absolument. Alors, on était en septembre 2023, c'est-à-dire qu'on précédait déjà les Jeux Olympiques et Paralympiques.
Donc,
et
il y avait une montée en puissance, vous avez envie de me dire.
Il y avait déjà cette sensibilisation qui avait été faite auprès des éditeurs et chacun avait déjà cette conscience que le parasport avait sa place à part entière. Mais les résultats ont néanmoins été agréables à cette époque-là de l'année, puisqu'on a 10,4% des émissions dédiées au sport qui étaient consacrées au parasport, au para-athlète. Et donc, c'était déjà un chiffre qui était quand même assez conséquent.
Laurence Pécori-Vollier de l'ARCOM, expliquez-moi comment vous avez réuni des représentants de médias pour en amont de ces Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris pour les sensibiliser à ces questions-là de parasport. Comment ça s'est passé concrètement ?
Alors d'abord, je vais être modeste, les éditeurs avaient déjà cette conscience, mais il s'agissait d'en discuter ensemble et de partager ensemble sur le fait que c'était une occasion unique, ces Jeux Olympiques et Paralympiques, de mettre en avant tout ce qui est diversité et représentation d'une France complète. On avait envie d'avoir le sport féminin qui soit vraiment porté et on avait envie d'avoir le parasport qui soit vraiment porté. Alors, on a réuni à l'ARCOM tous les éditeurs, ceux qui allaient retransmettre les événements, le service public, mais aussi les autres qui allaient les commenter. Et on leur a dit, voilà, on est à l'affût de toutes les initiatives que vous allez prendre pour qu'à cette occasion-là, on ait vraiment une autre vision du sport, une vision beaucoup plus étendue, et puis aussi, peut-être, des initiatives en matière d'accessibilité qu'on n'avait pas auparavant. Bref, on les a tous réunis dans une salle. On leur a dit, tout ce que vous ferez, on est preneur. Tout ce que vous ne ferez pas, ça sera en moins. Et on a dédié une page du site de l'ARCOM à toutes les initiatives que nous ont relayées les éditeurs. Puisque nous n'avons pas de pouvoir de sanction, nous ne pouvons pas agir sur l'éditorialisation. Donc, tout ce que nous pouvons faire, c'est leur dire, on est derrière vous et tout ce que vous ferez, on le valorisera avec vous.
Et c'est bien d'insister sur le devoir d'exemplarité sur ces questions du service public de l'audiovisuel. Qui dit représentation des questions de handicap sur les antennes de radio, de télévision, veut dire qu'il y a des enjeux d'inclusivité, mais aussi d'accessibilité. On peut peut-être parler de ces différentes questions, de ces sous-points de l'accessibilité. Alors, déjà le sous-titrage. Là-dessus, sur le sous-titrage, eh bien, les antennes de télévision sont plutôt bonnes élèves.
Tout à fait, il y a une obligation qui résulte d'une loi de 1986 quand même, d'assurer l'accessibilité pour les personnes sourdes et malentendantes, et qui évidemment n'est pas de la même envergure selon l'importance des chaînes. On regarde si leur part d'audience est supérieure ou inférieure à 2,5%. Mmh. Pour les très gros éditeurs, il y a une obligation de sous-titrage de l'intégralité des programmes, à l'exception d'un certain nombre de programmes qui sont plus difficiles à sous-titrer. Je pense particulièrement aux programmes en direct et aux chaînes d'information en continu. Pour les chaînes de dimension inférieure, il n'y a pas cette même obligation. C'est une négociation qui est conduite par l'ARCOM au cas par cas et qui conduit à la signature de conventions. Et nous sommes extrêmement attentifs à ce que les éditeurs que nous sélectionnons pour avoir droit de diffuser sur les antennes TNT prennent des engagements très sérieux en matière de sous-titrage. Chaque année, nous vérifions que les obligations légales et que les obligations conventionnelles ont été respectées par les éditeurs. Depuis 2022, nous sommes pratiquement à 100% de respect et même très souvent à un taux supérieur à celui auquel les éditeurs sont tenus.
Quand on parle de sous-titrage, il y a aussi son corollaire, c'est l'audio-description. Mais là, c'est le plus souvent dans de la fiction et moins pour les programmes d'actualité, d'information.
Alors, pour l'audio-description, il n'y a pas d'obligation légale comme pour le sous-titrage. Donc tout ça, c'est... Mais il y a malgré tout un certain nombre d'obligations d'assurer l'accessibilité dont nous nous servons là aussi pour négocier les conventions. Chaque fois qu'il y a une nouvelle convention qui est signée, on augmente les obligations des éditeurs. Et effectivement, il y a un certain nombre de montées en charge pour les éditeurs. Ça a été suivi d'effet là aussi. On n'est pas à 100%, mais... on progresse.
Parlons aussi d'oralisation et de vocalisation des programmes, qui permet plein de choses, j'imagine.
Et c'est une grande première, là aussi, liée à nos Jeux Olympiques et Paralympiques. Puisque pour la première fois, l'occasion de la diffusion des Jeux Olympiques et Paralympiques, l'éditeur qui les diffuse s'est engagé à faire de l'oralisation de cette retransmission. Et beaucoup d'oralisation, puisque ça représentait 7 heures de retransmission oralisée. Donc juste pour qu'on sache bien de quoi on parle, l'oralisation, ça veut dire que pour une personne malvoyante, faire juste une description, un commentaire de ce qui se passe ne suffit pas. Il faut aussi avoir une description des actions qui ont été menées sur le terrain.
Pour faire simple pour nos auditeurs, si l'on vous diffusait les commentaires d'un match de foot tel que diffusé à la télévision, à la radio, ça ne marcherait pas. C'est pour ça que l'on doit faire des commentaires de match de foot pour la radio et des commentaires de match de foot pour la télé, pour faire simple.
C'est exactement ça. Et quand c'est à la télévision... il va falloir jongler avec le fait que certains voient, d'autres ne voient pas. Et donc, il faut réussir à faire ce commentaire qui raconte l'action et qui le commente, sans pour autant, mais ça vous le connaissez bien, rentrer directement en action avec les bruits qu'on peut entendre et qui sont aussi une manifestation de l'événement sportif. Donc, c'est vraiment un art particulier. L'année dernière, il y a quelques éditeurs qui se sont lancés dans cette oralisation. Et là, effectivement, avec ces 7 heures par jour d'oralisation des événements sportifs depuis le début des JO et qui s'est étendu aussi aux Jeux paralympiques, on a atteint une dimension. Et là, par exemple, on est vraiment dans un domaine dans lequel on se dit, bah, puisqu'on a pu le faire, on va pas arrêter là. Maintenant qu'on sait que c'est possible et maintenant que ça a été fait à grande échelle, eh ben, maintenons-le et faisons en sorte, et c'est ce qu'on discutera avec les éditeurs dès les prochaines conventions, que ça soit maintenu dans les engagements des éditeurs à venir.
Parlons enfin de la langue des signes qui, là-dessus, sur les programmes d'information, est très répandue. Eh bien, en France, on la voit de plus en plus et grâce aux Jeux Olympiques, on l'a vu encore davantage aussi.
Oui, alors là où ça a été très très souvent des décisions volontaires des éditeurs, parce que les éditeurs ont une obligation d'assurer au moins le sous-titrage, mais pas forcément la langue des signes. Et c'est eux-mêmes qui ont mis un petit degré en plus avec cette langue des signes dans laquelle nous nous investissons beaucoup, puisque nous savons qu'une partie de la population sourde et malentendante est très sensible à cette langue des signes. Et par exemple, on l'a eu pour la cérémonie d'ouverture. Et ça, ça a été quand même quelque chose d'absolument fondamental dans l'accès à ce moment tout à fait particulier et que nous voulions tous partager.
Pour terminer sur la langue des signes, je précise aux auditeurs de RFI que depuis lundi, France 24 en français a porté à 4 le nombre de JT quotidiens diffusés en direct chaque jour. Donc ce sont les journaux de 7h ou 10h, puis les journaux de 13h, 18h et 22h45 en heure de Paris, qui est donc 4 journaux par jour qui maintenant sont proposés en langue des signes sur l'antenne de France 24 en français. Laurence Pécori-Vollier, on voit au final assez peu de personnes en situation questions de handicap à la télévision française. Quelques chiffres qui datent de votre précédent rapport disaient qu'entre 2016 et 2022, seuls 2,4% des personnes présentes dans les programmes de fiction étaient en situation de handicap. On était même à 0,5% des personnes présentes dans les programmes d'information, les documentaires, les magazines ou les émissions de divertissement qui étaient en situation de handicap. Je sais que vous travaillez sur un nouveau rapport. Avez-vous déjà une idée des tendances sur ces questions-là, sur ces chiffres-là de représentation ?
De manière générale, le chiffre moyen depuis des années de la représentation des personnes en situation de handicap à l'écran, ça tourne autour de 1%. Un peu moins de 1%. On bouge pas beaucoup, on bougera pas beaucoup sur les mois derniers, sauf évidemment avec cette dynamique des Jeux paralympiques qui va évidemment un peu modifier les chiffres pour 2024, et heureusement. Alors pourquoi ? Il faut d'abord tenir compte de la particularité de la représentation du handicap qui fait qu'il est souvent invisible ou qu'on le rend invisible. C'est-à-dire que les personnes qui sont à l'antenne et qui sont porteuses d'un handicap ne souhaitent pas forcément qu'ils soient visibles à l'antenne. Donc, on a de toute façon quelque chose dans la sous-mesure.
Qui n'est pas quantifiable
toujours. Quantifiable. Donc, il faut vraiment tenir compte de ça. Mais, nous, notre baromètre, il a pour principe qu'il faut se mettre à la place du téléspectateur, voir ce qu'il voit, pour s'assurer qu'il y a quand même une représentation de l'ensemble des catégories de la société à l'antenne, parce que cette représentation, c'est aussi une manière de dire, voilà, toute la population. Donc, même s'il est sous-quantifié, c'est important de se rendre compte que la vision qu'on a, c'est très peu de personnes en situation de handicap à l'antenne. Et donc, il faut qu'on travaille à ce que ça change, parce que on a vraiment l'impression que c'est très important d'abord pour toutes les catégories de population de se retrouver représentées à l'antenne, et qu'à l'inverse, c'est aussi une très importante valorisation de toutes les catégories de population de se retrouver aussi à l'antenne. Donc c'est pour ça que même si le chiffre est sous-évalué, il ne nous satisfait pas, parce que en cohésion sociale, il faut qu'on ait quelque chose de supérieur. Je vous rappelle que grosso modo, on considère qu'on est entre 13 et 15% de personnes en situation de handicap dans la société française. Donc le 1%, il est quand même en décrochage très net.
Autre déformation dans la représentation, c'est que les personnes en situation de handicap présentées à la télévision française sont souvent des hommes blancs.
En fait, notre baromètre mesure donc la représentation des catégories qui sont souvent sous-représentées. Donc, on regarde, bien évidemment, les femmes, les personnes d'un certain âge, on regarde l'origine. Et ce qu'on s'est rendu compte avec notre baromètre, c'est qu'il y avait un espèce de cumul de la sous-représentation. C'est-à-dire que, très clairement, non seulement il y a une sous-représentation de certaines catégories, mais alors, en plus, quand on prend les femmes d'un certain âge ayant un handicap, alors là, on en trouve vraiment très, très peu. Donc, il faut effectivement non seulement travailler sur chaque catégorie, mais en plus sur cette espèce de cumul qui fait que l'image unifiée de la représentation de la société française, je crois que personne n'en veut. Et souvent, c'est pas conscient. C'est pour ça que nous faisons ces baromètres, c'est pour ça que nous faisons ces études. C'est pas juste pour dénoncer, pour dire, pour faire du wokisme et dire il faut absolument que chacun soit représenté à hauteur de son pourcentage. C'est juste que quand on met les chiffres, on se rend compte qu'effectivement, peut-être on n'a pas suffisamment fait attention, et on essaye de faire en sorte de modifier un peu la représentation qu'il y a à l'écran. Et là encore, pour moi, c'est juste un facteur de cohésion sociale.
Alors, avertir ou essayer peut-être de lutter contre les stéréotypes, c'est aussi une des autres nobles missions de l'ARCOM. Laurence Pécaud-Rivollier, depuis la fusion du CSA et de Hadopi en ARCOM, le régulateur français a également Internet dans son giron. Quels sont vos axes de réflexion et de travail sur les questions de représentation, de représentativité des personnes en situation de handicap sur la sphère numérique ?
Alors, dans la sphère numérique, déjà, il faut distinguer. On a ce qu'on appelle les SMAD, c'est-à-dire les services de médias à la demande, dans lesquels on peut voir les grandes plateformes, Netflix, Amazon et autres, dans lesquels on peut voir des retransmissions, qui sont maintenant tenues à un certain nombre d'obligations et pour lesquelles nous faisons également des études sur la représentation à l'écran. Par rapport aux plateformes en ligne, et par rapport aux réseaux sociaux, c'est évidemment beaucoup plus complexe puisqu'il n'y a pas d'éditorialisation. Par conséquent, on n'a pas un interlocuteur à qui on peut dire « vous auriez dû » puisque c'est chacun qui contribue. Donc forcément, notre approche ne peut pas être la même. Nous avons depuis quelques mois la mission d'être le coordinateur des services numériques en ligne pour la France, mais pour une régulation qui se fait au niveau de toute l'Europe, et c'est donc au niveau européen qu'on va être amené à travailler sur cette représentation dans les plateformes qui, évidemment, ont très rarement leur siège social en France. Donc, pour travailler avec elles, il faut avoir une autre dimension, et nous allons travailler de manière différente, mais c'est un axe que nous prenons évidemment en considération.
Laurence Pécori-Vollier, vous avez un petit peu donné quelques idées sur le prochain rapport sur lequel vous travaillez avec ce groupe de travail Protection des publics et diversité de la société française. Avez-vous également d'autres choses à nous donner sur les grandes lignes de ce rapport qui, je le rappelle, sera publié dans les prochaines semaines et qui est en cours de finalisation, de relecture ?
En réalité, on en a plein des rapports, puisque celui auquel vous faites référence, c'est ce qu'on appelle, nous, le rapport handicap, dans lequel nous vérifions ce qui s'est passé chaîne par chaîne, au niveau notamment de l'accessibilité, mais aussi de la représentation. À côté de ça, nous avons ce baromètre de la diversité dans lequel nous mettons à la place du téléspectateur pour voir ce qu'il a vu en représentation de la société française. Ces deux rapports-là vont sortir effectivement incessamment dans les semaines prochaines et vont donner des informations intéressantes. Et puis nous aurons une troisième étude qui va être là en lien direct avec les JO et les JOP. Évidemment, on va faire un bilan de ce qui s'est passé. On va essayer de voir, tant en termes d'accessibilité que de représentation du parasport, quelles ont été les audiences, ce qu'on a ressorti, les spectateurs qui s'y sont intéressés. Et évidemment, tout ça est tourné vers l'avenir. C'est-à-dire, l'idée, c'est de dire, c'est très bien, mais surtout pas rester sur juste un événement unique. Il faut que ça serve d'exemple et il faut que ça puisse se continuer. Donc, c'est pour ça qu'on va faire une étude très, très ciblée sur ces JO et sur les Paralympiques et que ça va être quantitatif, qualitatif. Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tout ça puisse se maintenir dans les années qui viennent ?
Laurence Pécori-Vollier, membre du Collège de l'ARCOM, présidente du groupe de travail Protection des publics et diversité de la société française. Merci d'être venue dans l'atelier des médias de RFI.
Merci à vous de nous avoir accueillis sur ce sujet qui est un sujet extrêmement important aux yeux de l'ARCOM.
Merci. C'est ainsi que se termine l'Atelier des médias, une émission de radio diffusée d'abord en podcast et réalisée par Simon de Creuse, que je remercie. Chaque samedi, l'application d'écoute de votre choix accueille un épisode à écouter, pourquoi pas, au casque. N'oubliez pas de mettre des étoiles ou de poster un commentaire sur votre application d'écoute. C'est utile pour que l'on soit davantage visible sur les plateformes et donc, qui sait, plus écouté. Pour nous contacter, il existe une adresse email, on ne peut plus simple, atelier@rfi.fr. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro original de l'Atelier des médias.